Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, émission réalisée aujourd'hui en distanciel, comme on dit. Cette émission Libre Propos, vous le savez, vous permet d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets, eh bien, sur des sujets d'actualité, qu'ils soient des sujets religieux ou profanes. Aujourd'hui, nous allons parler, pour commencer, de votre voyage, Monseigneur, à Thésée, cette communauté œcuménique tout à fait étonnante, c'est situé en Bourgogne, et depuis déjà fort longtemps, eh bien, le dialogue interreligieux, le dialogue œcuménique s'y poursuit de manière très apaisée.
Oui, bonjour Christophe, je suis heureux de retrouver les auditeurs de Radio Grand Ciel. Effectivement, durant ces semaines de vacances de Toussaint, c'est un peu la tradition que des lycéens se rendent à Thésée. Alors, Thésée, c'est un petit village en pleine campagne bourguignonne qui a été le lieu d'une fondation par le frère Roger en 1944, donc c'est pas récent, d'une communauté de frères et qui a vocation œcuménique, donc qui a vocation d'accueillir des chrétiens de toute l'Europe souvent, pour des temps de rencontre. Moi, je me rappelle que j'avais même pas 20 ans, 15, je crois. Je n'y étais pas allé, mais on parlait de Thésée déjà. Ouais. Donc, c'est depuis cette époque-là, de manière continue, il y a des milliers de jeunes, notamment des Allemands, des Néerlandais, en fait, beaucoup de jeunes qui viennent de cultures où il y a un équilibre plus important entre le nombre de catholiques et de protestants. Ouais. C'est un lieu où les jeunes vivent d'abord des très belles prières avec les frères. Il y a beaucoup de chants de Thésée. Si nos auditeurs vont sur Internet et cherchent les chants de Thésée, ils verront que c'est des très beaux chants,
oui.
Souvent méditatifs. Ensuite, il y a des rencontres entre les groupes. C'est-à-dire que la communauté Thésée s'arrange pour que des jeunes français rencontrent d'autres jeunes ou entre groupes de différents diocèses. C'est assez intéressant pour eux. C'est vraiment assez libre. C'est aussi des jeunes qui ne sont pas chrétiens, qui viennent là volontiers. Le matin, il y a une messe pour tous ceux qui veulent la messe catholique, mais tout le monde n'y va pas, justement. En même temps, ça reste très simple. Les repas sont très simples, presque primaires. Entre guillemets, on mange sur ses genoux, même pas de table, avec trois choses très simples. Donc, c'est un lieu qui nous qui nous détache un peu de l'habitude, peut-être pour certains jeunes. On les encourage à ne pas être sur leur téléphone, smartphone en permanence, par exemple. Et beaucoup reviennent toujours très marqués par Thésée.
Oui. C'est d'ailleurs souvent un lieu de prédilection pour les jeunes qui sont un peu éloignés de la pratique religieuse, qui sont un peu éloignés de l'Église et qui reviennent souvent par Thésée. C'est un lieu de retrouvailles aussi, non? J'ai ce sentiment-là.
C'est vrai. Assurément, on ne demande pas aux gens d'avoir un certificat de bonne conduite chrétienne. Ils ont la foi, ils ne l'ont pas. Mais moi, je vois ces jeunes qui sont contents de discuter, d'échanger. C'est des belles rencontres. Oui. Et donc, je vais personnellement les rejoindre pour deux journées parce que c'est toujours intéressant comme évêque d'être avec des jeunes, d'être parmi eux, de les écouter, d'avoir du temps un peu libre, comme ça, gratuit, de montrer que le pasteur de l'église d'Eure-et-Loir est avec eux, parmi eux.
Ouais. Nous vivons un moment assez particulier, évidemment, de l'histoire humaine avec le Covid, mais aussi en France avec parfois des tensions intercommunautaires, etc. On le sait. C'est aussi un moment de renouer avec une forme de paix intérieure. C'est une période de ressourcement, toujours un pèlerinage à Thésée. Hein.
Oui, c'est sûr que c'est pas un lieu où on commence à faire des histoires entre chrétiens différents. En France, on voit peut-être ces tensions parfois entre l'Église catholique, les églises évangéliques qui sont très diverses. Certaines sont très proches de nous, d'autres sont plus lointaines, même critiques et catholiques. Moi, je trouve qu'en Eure-et-Loir, c'est plutôt paisible. Et là, je vois particulièrement, il y a eu les funérailles de Judith, qui est une femme que j'ai appréciée vraiment en arrivant à Chartres comme évêque, qui est décédée il y a quelques jours. Une femme qui était présidente de sa paroisse luthérienne, ici en Eure-et-Loir, et qui était qui m'a accueilli chez elle avec son époux. On a eu un très bel échange sur nos histoires saintes, avec en plus un autre pasteur qui était Olivier évangélique, avec aussi le père Jean-Claude qui est orthodoxe, donc c'est avec d'autres catholiques. C'était très beau et une grande communion. Il y avait aussi Dina qui était pasteur à l'époque ici. Et ces funérailles ont lieu chez nous. On l'a fait dans l'église de la Visitation, dans la maison du Seine, parce qu'il fallait un lieu de culte assez large pour accueillir cette célébration, qui n'était pas une eucharistie ni un culte, mais un temps de parole où tout le monde était invité. Donc c'était beau de faire ça, voilà, chez les catholiques, une célébration de funérailles protestantes.
Avant de passer à un deuxième sujet, je suppose que les conditions seront un peu particulières de ce voyage avec le Covid. Il y aura une...
Thésée est en Bourgogne. Je crois que le couvre-feu est applicable dans ce département-là. Donc il y a le couvre-feu, ce qui fait que le soir, je pense que le rythme s'arrête assez tôt pour se poser un peu et peut-être dormir un peu. Je ne sais pas si nos jeunes dorment beaucoup le soir. Ils ont plutôt dans les dortoirs tendance à parler, mais enfin, c'est un peu normal à leur âge.
La Toussaint, et c'est la Toussaint, donc très bientôt, une grande fête. Quel est le sens de cette fête de la Toussaint qu'on associe bien à tort à la fête des morts, en fait?
Alors, c'est ça, il y a deux événements. Il y a la fête de la Toussaint, donc là, on va commémorer les hommes, les femmes saints. Ceux qu'on connaît bien sûr, on les connaît, comme Charles Saint-Fulbert, bien des saints plus récents qu'on aime beaucoup, Sainte-Thérèse, de l'Enfant Jésus, et d'autres. Mais il y a aussi les saints inconnus, c'est-à-dire que des gens qui sont dans la gloire de Dieu, qui ont une vie de sainteté discrète, qui sont sûrement très très nombreux. Donc ça c'est... Voilà, donc ça va être dimanche 1er novembre cette année. Donc ça va être une belle journée, c'est une liturgie qui est très tournée vers le ciel. On va lire l'Apocalypse avec des passages où on voit justement les saints qui sont devant la gloire de Dieu et qui louent Dieu par des chants, qui ont des chants de louange. Hein. Le ciel, ça va être un peu comme une perpétuelle louange éternelle, je ne sais pas comment ça sera, mais enfin ça va être un peu cette gloire de Dieu partagée à chacun de nous. Donc c'est vraiment une belle journée. Alors c'est pas tout à fait pareil que le 2 novembre, qui est la journée de prière pour nos défunts. Oui. Alors, bien sûr qu'on espère que nos défunts sont près de Dieu, mais Jésus quand même précise qu'il y a un chemin à faire pour aller auprès de Dieu, que certains devraient se convertir tout de suite pour ne pas être, comme dit l'Évangile, la lampe à huile vide, sans avoir rien à présenter à Dieu. Hein, au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour qu'on aura manifesté, partagé. C'est sûr que le Christ nous montre bien des façons d'accéder au ciel, partageant son précieux corps, s'occupant des pauvres et des malades. On a le mode d'emploi du ciel. Hein. On l'a dans Matthieu 28, ce grand texte du jugement dernier. Maintenant, on peut aussi rater son ciel. Jésus dit même que celui qui insultera son frère ira dans la géhenne de feu. Donc, il s'agit vraiment de nous convertir, de prendre conscience que nous avons à retourner notre vie vers le bien, toujours, à refuser le mal, à le fuir avec horreur. Et donc les morts, bien, on prie pour eux. C'est dans l'île de Maccabée où on trouve un passage où vraiment on intercède pour les morts. À l'époque, c'était des soldats qui avaient baptisé avec des idoles. Et donc les Juifs veulent prier pour eux pour qu'ils aient la paix et la vie éternelle. C'est ce qu'on fait au fond le 2 novembre. On va parfois dans les cimetières, on va sur les tombes de nos proches que l'on peut bénir, on peut prier pour eux. Et surtout, on peut demander des messes. Des messes, c'est la plus belle prière qu'on fait dans l'Église et on peut la faire pour un défunt. Et cette messe accompagne son passage et vraiment, on supplie Dieu de lui pardonner et de l'accueillir dans sa gloire. Et parfois, les gens, ils sont un peu rapides. On entend... quand quelqu'un décède, ça y est, il a retrouvé son épouse, il a retrouvé ses parents. On le souhaite vraiment. Oui. Mais est-ce si simple? Peut-être pas. Donc, le 2, et ce sera un lundi, est une journée très sérieuse de prière pour les défunts.
Ouais. À prier pour les défunts. On parle peut-être pas souvent aussi du purgatoire. On a tendance à oublier le purgatoire, mais
Le
l'aventure.
purgatoire, c'est un état, c'est pas un lieu, c'est un
Un
état
état,
de
oui.
vie intermédiaire où on attend, on purifie sa vie, un peu comme quelqu'un qui sort d'une grotte obscure et qui sort à la lumière, il est ébloui, un temps d'adaptation, c'est le temps de la conversion du cœur, c'est le temps de la pénitence aussi pour être un jour dans la gloire de Dieu.
J'en reviens au saint. C'est quoi au juste la sainteté?
La sainteté, c'est peut-être vraiment avoir une vie la plus possible conforme à la volonté de Dieu. Cette volonté, on l'a dans l'Écriture, notamment quand Jésus résume toute la loi en disant « Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même ». Donc c'est à la fois l'acte de foi et l'acte physique, l'acte concret, l'acte matériel qui accompagne la foi, notamment dans la charité pour le prochain.
Oui. Les saints souvent nous semblent loin, évidemment, de nos propres imperfections, mais pour autant, nous sommes appelés, nous aussi, à la sainteté, à la sanctification. Hein.
On est tous, on a eu la béatification très récente de Carlo Acutis, un jeune de 15 ans italien qui est mort en 2006, donc très récemment, qui aimait passionnément les jeux vidéo, qui était un fan d'informatique, et qui avait une vie de joie, et qui dit même à la fin de sa vie, il meurt d'une leucémie malheureusement à 15 ans, et dit « Je suis content de mourir, parce que quand je regarde ma vie, il n'y a pas un seul jour où j'ai fait quelque chose qui a pu déplaire à Dieu. Ouais. » Oui, il était à la fois un garçon normal dans sa vie de italienne avec ses copains, il joue au football, il faisait de l'informatique, et il est saint.
Ouais.
Donc c'est accessible aussi la sainteté.
Peut-on prier les saints? On n'y pense pas souvent non plus.
Alors, oui, parce qu'il y a une communion des saints. C'est-à-dire que la communion des saints, c'est l'ensemble de l'Église du ciel et de la terre. On forme une seule Église, une seule assemblée, on pourrait dire. Et donc, nous qui sommes ici-bas, on peut s'adresser aux saints que l'on connaît, dont la sainteté a été authentifiée par l'Église, notamment par leur vie sainte, mais aussi par un miracle qu'on a obtenu en demandant leur intercession. Et donc, on a confiance qu'ils sont près de Dieu et qu'ils prient pour nous auprès de Dieu. Quelque part, ils disent à Dieu, regarde mes amis qui sont sur terre et qui demandent de l'aide. Donc oui, on peut les prier, bien sûr, mais ils ne sont pas Dieu.
Oui.
Dieu, on lui donne un culte d'adoration. Les saints, on leur donne un culte de vénération.
De vénération. Ouais. Merci, Monseigneur. Cette émission est terminée. Je vous rappelle que vous pourrez la réentendre sur le site de Radio Grand Ciel, www.radiograndciel.fr. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Propos.